Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. C'est François Allais, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, retrouvez un épisode que j'ai beaucoup apprécié en 2021. J'avais reçu Laure Babin, la fondatrice de Zeta, une marque de basket zéro déchet fabriquée à partir de raisins. À l'époque, j'avais dit qu'elle faisait partie, selon moi, des entrepreneurs français à suivre ces prochaines années. Quelques mois après cet épisode, elle signait une collaboration exclusive avec Nespresso, appelée Reground, la première basket en café. Ça mériterait clairement un deuxième épisode avec elle, peut-être cette année. Je vous laisse avec cette rediffusion, très belle semaine et à mercredi prochain. Salut Laure.
Salut François.
Première question, comme dans tous les épisodes du podcast, c'est quel a été ton parcours avant de créer Zeta ?
Alors j'ai 24 ans, genre 25 ans à la fin de l'année, et Zeta je l'ai créé en fait durant ma dernière année d'études à l'IUT Bordeaux. Donc j'ai fait des études en commerce et management, j'ai commencé par un BTS en commerce international, puis une licence en management et un master en marketing et en commerce. Et pour revenir un peu sur mes expériences, j'ai fait tous mes stages dans l'industrie de la mode et de la chaussure. Donc, je ne suis pas arrivée dans ce milieu-là par hasard. Ça a toujours été ma passion. Je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Je voulais être styliste. Donc, ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers ce milieu-là pour lancer mon entreprise parce que ça faisait sens et je voulais avoir un impact sur cette industrie de la mode. Qu'on connaît bien.
C'est clair, trop cool. Donc, ouais, t'étais déjà dans le milieu de la mode. Comment ça t'est venu, cette idée, en fait ?
On peut dire que sur le marché du textile écologique, responsable, recyclé, biologique, il y a déjà pas mal d'acteurs. Et donc, je me suis un peu penchée sur la basket. Pourquoi la basket ? Parce que c'est un produit qui est porté par des milliers de personnes, toutes les générations, peu importe les âges. Chacun a une paire de baskets dans son dressing. Donc, c'était simple de s'attaquer à ce produit-là. Pour toucher le plus de personnes possible. Et c'est surtout que ce produit, il a un impact écologique et social fort. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, la majorité des baskets est encore fabriquée à l'autre bout du monde, en Asie, dans des conditions peu transparentes, avec des matériaux qui sont très polluants, du polyester, du cuir, des dérivés du pétrole. Donc l'idée, c'était vraiment de reprendre ce produit-là, de le déconstruire, et d'en faire un produit qui soit plus propre, intelligemment fait, si je puis dire. Et voilà, c'était un peu l'objectif en partant du zéro déchet, puisque au moment où je m'y suis penchée, c'était il y a 2 ans déjà, c'était fabriqué, la majorité des baskets responsables, c'était fabriqué à partir de matériaux qui soient naturels, biologiques, mais qui impliquaient forcément de créer de la matière première. Là, l'objectif, c'était vraiment utiliser uniquement des déchets, ce qu'on avait déjà en notre possession, donc faire une basket 100% recyclée.
Super. Et c'est vrai que le projet a démarré un an avant, donc en 2019, en septembre 2019. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 12 premiers mois, on va dire, avant la création de la société ?
Ouais, alors donc en septembre, donc dernière année de master, pardon, j'intègre l'IAE, je réintègre l'IAE après une année de césure, j'intègre l'incubateur de mon école, je commence un peu à définir l'idée, le business plan, à vraiment concevoir le projet dans toutes les petites lignes, créer l'identité de marque, penser au logo, penser au nom. Et à partir du moment où j'avais vraiment une idée structurée, j'ai commencé à chercher les matières premières. Donc, chaque composant de la chaussure, il fallait qu'il soit recyclé. Donc, il y a eu un gros travail de sourcing de matériaux pendant plusieurs mois. Et en même temps, je me renseignais sur comment on fabrique une chaussure. Parce que j'en avais aucune idée. J'ai beau être passionnée de mode, on ne sait pas comment on assemble et on fabrique une chaussure. Donc ça, c'était une grosse étape aussi, essayer de comprendre et ensuite sourcer les matériaux. Donc pour ça, j'étais sur Internet, j'ai fait des salons, etc. Et en parallèle, j'ai cherché l'atelier de fabrication qui allait me permettre de mettre ce projet en lumière, on va dire. Et donc j'ai porté mes recherches sur la France au début, avant de me rendre compte que le coût de la main-d'œuvre était très élevé. Puis sur le Portugal, puisque je sais qu'ils ont un véritable savoir-faire au niveau de la chaussure, au niveau du cuir. Et puis finalement, après 2-3 échanges de mails avec quelques usines trouvées sur Internet ou trouvées au détour de forums, c'était assez complexe, puisque la majorité n'ont pas de site Internet en fait. Je me suis dit, bon, je vais prendre un billet d'avion. Donc, j'ai pris le premier billet Bordeaux-Porto que j'ai pu trouver. C'était une semaine de cours, donc j'ai loupé les cours pour y aller. Et en fait, j'ai loué une voiture et sur place, j'ai été voir les usines. Alors, je te cache pas que c'était assez sport. Sur 2 jours, je crois que j'ai fait ouais, quatre visites un peu partout. Et surtout, j'étais morte de peur parce qu'au final, j'avais 22 ans à l'époque. Je savais pas du tout comment fabriquer une chaussure. Et je me suis dit surtout, je vais arriver, ils vont me rire au nez, quoi. Parce que je suis jeune, j'avais pas dit que j'étais étudiante, bien sûr, ça je m'en étais bien cachée. Et généralement, les personnes qui se présentent à eux, ce sont soit des marques déjà établies, soit des gens qui ont plus d'expérience. Donc j'étais clairement morte de trouille. Et finalement, donc j'ai visité quatre. Et la première usine que j'ai rencontrée, ça a été
Coup de
celle avec
cœur.
laquelle je travaille. Ouais, exactement. Ça se sent en fait. Il y a vraiment une question de feeling. Et on dit que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup l'instinct qui Il faut vraiment y aller à l'instinct, et là je l'ai senti directement. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a fait le premier prototype, on a testé le prototype, j'ai préparé la campagne de crowdfunding, et en septembre 2020, c'était lancé.
Trop cool. Tout ça, ça paraît assez simple finalement quand tu le racontes, mais forcément ça n'a pas dû l'être. T'étais dans quel état d'esprit justement quand tu es allé visiter ces usines? Parce que enfin tu vas justement dans un autre pays. Comment ça s'est passé en fait cette première rencontre, tu vois?
Alors, quel état d'esprit? J'avais peur, mais d'un autre côté, j'avais tellement envie que ce projet voie le jour. Il faut savoir que j'avais essayé de me lancer dans pas mal de choses avant, durant toutes mes études. Je crois que chaque année, j'avais un projet entrepreneurial dans des domaines différents. Et cette année, je me suis dit, voilà, celui-ci, il fait vraiment sens pour moi, c'est le bon. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc, j'y suis allée, on va dire, pleine d'ambition. Mais j'avais peur quand même parce qu'au final je me suis dit bon il y avait rien qui était fait, j'avais juste les matériaux, quelques dessins que j'avais fait chez moi, mais il y avait absolument rien, donc il y avait absolument tout à construire. Donc j'avais oui j'avais quelques craintes quand même. Et puis bon, forcément l'année qui a suivi, les mois qui ont suivi, ça a pas été uniquement tout rose. Il y a eu des moments, je me souviens l'hiver 2019, c'était super compliqué parce qu'on avait du mal à trouver certains matériaux, certains qu'on a testés, ça marchait pas, ça se déchirait, etc. On a eu pas mal de modifications avant de valider le prototype final. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, bon, je vais jamais y arriver. Même avec le business plan, moi qui suis pas forcément très douée en chiffres, faire des prévisions, les approvisionnements, la logistique. Des fois, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour tout gérer toute seule, en fait? Ça me paraissait gigantesque et je me comparais toujours aux autres marques. Même des petites marques qui venaient de se lancer, mais où ils étaient déjà une super équipe ou plusieurs associés. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça va être trop compliqué toute seule. Je vais jamais y arriver. Et plusieurs fois, je me le suis répété. Et heureusement, j'étais très bien entourée. Ça m'a
Ouais,
permis d'avancer. Ouais.
c'est clairement important. Et puis, tu fais aussi partie des entrepreneurs qui se sont lancés dans un contexte particulier aussi, puisque 2020 est vite arrivé, que forcément, ça a dû être encore
Ouais.
plus complexe que prévu. Et ça fait partie de l'aventure aussi.
Ça fait partie du
Est-ce que
jeu.
tu peux nous parler un peu de la chaîne logistique, dans le sens, à partir du moment où on récupère le raisin, qu'est-ce qui se passe en fait? Et où il est récupéré, ce raisin aussi? Est-ce qu'il est récupéré aussi au Portugal? Comment ça se passe?
Alors, la matière en raisin, donc le cuir de raisin, il est fabriqué en Italie, dans la région de Milan, à partir des chais viticoles, donc de cette même région. Et ensuite, il est acheminé au Portugal, dans notre usine de fabrication. Et tous les autres matériaux viennent du Portugal également. On est en circuit court, c'est-à-dire qu'on a essayé de sélectionner des fournisseurs qui soient le plus proche de l'atelier de fabrication. Si on avait, par exemple, deux ou trois alternatives pour les lacets, ils sont en plastique recyclé, par exemple, on essaie de choisir vraiment la plus proche de l'usine pour limiter l'empreinte carbone. Par exemple, notre usine de semelle, elle est à 10 km. Donc, il y a vraiment très peu de transport et ça, c'est plutôt chouette. Donc, tout est assemblé au Portugal. Et ensuite, c'est acheminé en France, à Paris, dans un entrepôt parisien. Ce qui nous permet ensuite faire les
Dispatcher.
expéditions, ouais,
Ouais.
exactement, dans toute l'Europe.
Très clair. Et ensuite, on arrive du coup en septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Septembre 2020, c'est le lancement de la campagne de crowdfunding. C'était il y a tout juste un an, puisqu'on est le 7 septembre 2021. Et donc voilà, le 7 septembre, la campagne est lancée avec beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit, bon, il faut qu'on atteigne 100 précommandes pour lancer la production. Et en fait, en quelques heures, ça s'est envolé. Je ne sais pas comment. Il y a eu quelques articles de presse qui ont permis de faire exploser la campagne. Mais ouais, en quelques heures, on avait atteint 500 précommandes. c'était au-delà de mon business plan. C'est-à-dire que j'avais prévu 100, 200, 300, 400, 500. Et je m'étais arrêtée à 500. Et en fait, on a atteint au bout d'un mois, donc au bout de 30 jours, 2683 commandes. Ce qui était incroyable et ce qui nous a permis d'être la campagne mode la plus financée sur Ulule, sur la plateforme de crowdfunding. C'était une belle visibilité aussi.
Pour un lancement.
Incroyable. Incroyable.
Trop cool. Et donc, dans ces mois qui ont suivi, forcément, qui dit précommande, dit commande, dit fabrication. Est-ce que ça a tenu justement du côté de l'usine pour respecter les commandes? Et comment ça s'est passé justement sur le terrain, on va dire, tu vois?
L'usine était ravie. C'était rigolo parce que on se parlait tous les jours et on se parle encore tous les jours avec les différents chefs de projet artisans. Et en fait, ils actualisaient tous les jours la campagne et ils nous envoyaient des captures d'écran. Ils étaient comme des fous puisqu'ils suivaient ça à distance. Mais après, ça a été un sacré casse-tête pour organiser le plan de production, puisque au final, les approvisionnements, il fallait les tripler, les quadrupler. Il fallait aussi au niveau du planning de commande avec les clients, il ne fallait pas se mélanger les pinceaux avec ceux qui avaient commandé 5 paires, ceux qui changeaient d'adresse. C'était assez compliqué. Et surtout, avec le Covid, nos fournisseurs, indépendamment, nous ont annoncé des délais de livraison plus longs. Ce qui fait qu'on a commencé la production début décembre, alors qu'on devait livrer début décembre. Donc, on a commencé avec du retard et on a forcément livré avec du retard. Après, les clients ont été super compréhensifs. Et on est vraiment dans un schéma aussi de slow fashion et de consommer plus intelligemment et d'être OK pour attendre. En tous les cas, c'est de la précommande. Donc, on a des clients qui ont été super et on a une super communauté. Donc, mais ça a été assez stressant. Je t'avoue que je recevais des mails le mois de décembre, ça a été assez compliqué puisque je recevais des mails tous les jours de clients qui disaient quand est-ce que je reçois ma commande. C'était en boucle. Et au bout d'un moment, quand tu prends tout ça sur toi, c'est lourd à peser. Mais on s'en est sorti et voilà, c'était un gros défi de l'année 2020. Ouais.
Ok. Et comment s'est passé du coup le début de l'année 2021 ?
2021, on a eu le lancement du site internet en février, lancement de nouveaux coloris. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? J'ai participé à Change Now, le sommet d'initiatives à impact positif. Et puis voilà, à peu près. Est-ce qu'on a eu des gros projets ? Il y en a beaucoup à venir dans les prochains mois.
C'est quoi les objectifs futurs justement?
Alors notamment à partir de septembre, on va être présent dans plein de boutiques. Dans plein de boutiques, pour moi ça me paraît déjà beaucoup. Paris, Lille, Toulouse, Genève, Bordeaux. Donc c'est super, on va avoir des points de vente physiques. On va organiser un pop-up store à Bordeaux un peu avant Noël. On a des partenariats avec une association française qui me tient beaucoup à cœur en octobre. Ça laisse présumer un petit peu quelle association c'est, Octobre Rose. Voilà, j'en dirai pas plus. Et avec une grosse entreprise française, une collaboration aussi qui va venir. Je ne peux pas trop en parler parce que c'est encore en phase de recherche et développement. Donc, on a des gros projets qui arrivent, des nouveaux modèles de chaussures. L'équipe s'est agrandie, il y a pas mal de choses.
Super. Et justement, aujourd'hui, on est à un an, le premier anniversaire de Zeta. Est-ce qu'on peut faire les bases en termes de chiffres? Vous êtes à combien de ventes, par exemple? Est-ce que tu peux me donner quelques stats?
Ouais, on est entre 5 000 et 6 000 paires vendues de chaussures. Donc, ça représente en tonnes de déchets recyclés. On est à peu près à 15 000 tonnes de déchets, puisqu'une paire, c'est 3 kilos de déchets recyclés. Donc voilà, 6 points de vente physiques, 3 personnes dans l'équipe. On a pris nos propres bureaux à partir de mai, on est très fiers. Et 7 modèles de chaussures à peu près. Ouais, c'est à peu près ça.
Super. Pouvoir faire un petit bilan, aussi un petit bilan récap, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure, dans ces premiers mois?
Le plus difficile, je pense, ça a été d'entreprendre seul. Alors, on n'est jamais vraiment tout seul parce que j'ai été très bien entourée. Ma famille qui était toujours là, mes amis hyper présents. J'ai été suivie par un incubateur. D'abord l'incubateur étudiant, puis un incubateur bordelais. Mais au final, on est quand même seul à prendre les décisions. Seul à se tromper, à devoir rebondir, à devoir faire face à plein de contraintes, quelles qu'elles soient. Donc, ça a été assez compliqué. Cette période dont je te parlais aussi, décembre, avec la réorganisation du plan de production où il a fallu tout revoir, où il y a eu pas mal de délais, ça a été compliqué parce qu'il fallait aussi que j'encaisse tout ça toute seule. Mais à côté de ça, il y a tellement de bons moments. Il y a tellement de moments heureux et que bon, on les oublie assez vite. Si je devais en retenir un ou deux, ce serait, je pense, la première rencontre avec l'atelier au Portugal. Ça a été un moment hyper fort et en fait, à chaque fois que j'y retourne maintenant, c'est un peu comme si je retournais à la maison et c'est très très chouette. On a créé au fil des mois des liens super forts et on a traversé un peu toutes les épreuves ensemble. Et un autre moment, je pense, qui m'a marqué, c'est la première fois que j'ai vu une paire de chaussures Zeta au pied de quelqu'un que je ne connaissais pas. C'était assez dingue parce que je me suis imaginé ce moment pendant plusieurs mois et finalement, c'est arrivé. C'est arrivé juste devant moi à Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Donc, c'était assez incroyable.
C'est clair que ça doit faire bizarre d'avoir le produit fini au pied d'une personne.
C'est ça.
Ça
Quand
doit
t'es
être
quelqu'un de ta
particulier.
famille ou tes amis, bon, c'est quelque chose.
Ouais.
T'es quand même très fier. Mais alors, quand c'est quelqu'un que tu connais pas, tu te dis wow, ça c'est quand même plus impressionnant.
Carrément. Aujourd'hui, comment tu te positionnes avec Zeta par rapport aux autres marques justement qui commencent à travailler sur des chaussures à base de matières recyclées?
On est beaucoup d'acteurs sur le marché. Et tant mieux, en fait, parce que ça prouve qu'il y a vraiment une diversité de l'offre. Et dans tous les cas, il faut plein de modèles différents et plein de matières différentes et que ça puisse plaire à tout le monde. Donc, on est une marque de plus avec sa propre identité. Nous, voilà, notre identité, c'est le zéro déchet. On a fait notre première collection à base de raisin et on fera la prochaine à base de maïs. Donc, on a notre identité qui nous est propre et voilà, nos propres valeurs aussi. On essaye d'être le plus transparent possible, de montrer ce qui se cache vraiment derrière les dessous d'une marque. Notamment avec la vidéo d'anniversaire qu'on a publiée aujourd'hui, en essayant de donner la parole à nos artisans. Voilà, on est de plus en plus d'acteurs et honnêtement, je trouve que c'est de la concurrence positive, puisqu'au final, on essaie d'avoir un impact et on fait un peu la guerre aux Nike et Adidas. Donc c'est plutôt positif et j'entretiens des bonnes relations avec certaines marques, donc c'est chouette.
Très bien. Est-ce que tu as une petite an anecdote à me raconter que tu n'as raconté nulle part sur Zeta? Essaye d'avoir des choses croustillantes.
Si, j'en ai plusieurs forcément. J'en ai des rigolotes surtout au Portugal. Donc au début, la première fois que je suis partie au Portugal, j'étais étudiante et j'avais pas d'argent, j'avais absolument zéro ressource. Et je crois que je suis partie avec 200 euros en poche, quelque chose comme ça. Je travaillais dans un bar à Bordeaux à côté de mes études pour financer le projet. Et en fait, donc j'ai financé mon billet d'avion, la voiture de location, mais j'avais plus d'argent pour le logement. Il fallait que je trouve une solution. Et du coup, j'étais sur Couchsurfing et j'ai envoyé une demande, je crois, 2 jours avant à un Portugais d'une quarantaine d'années qui avait l'air très sympa. Et j'ai demandé, s'il te plaît, héberge-moi parce que j'ai pas de solution. Et en fait, du coup, j'ai dormi 3 jours sur son canapé dans son salon. Et j'ai passé 3 jours fantastiques où il a essayé de m'apprendre le portugais, il m'a fait visiter la ville, il m'a fait découvrir Porto d'une autre façon. Et en fait, c'est un super souvenir et c'est plutôt rigolo. Et j'y suis retournée, je crois, un an après. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je suis là. Et j'avais les chaussures au pied. Et il a rigolé, il m'a dit, mais c'est incroyable, tu te rends compte, tu étais là il y
C'est
a un
ouf.
an. Et en fait, je te voyais partir avec ta voiture le matin, revenir le soir, et tu me racontais les usines que tu avais visitées. Et en fait, un an après, je te vois avec les chaussures au pied, et ça a été fait, et c'est rigolo, quoi. Et vraiment, bon, s'il faut retenir quelque chose de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'argent pour se lancer. C'est que de la débrouille, l'entrepreneuriat.
Et puis le hasard des rencontres aussi,
Ouais.
la bienveillance, et puis
Exactement.
c'est parti quoi.
Exactement. C'est tout à fait ça.
C'est quoi aussi pour toi l'importance d'être entrepreneur engagé et justement de créer une boîte à impact?
Je pense que maintenant, on peut plus lancer une boîte sans penser aux valeurs qu'on va dégager derrière. Peu importe que ce soit un impact social, sociétal, environnemental, on peut plus lancer une boîte sans avoir de réelles valeurs. Je pense que bon, les chiffres sont là, il faut agir et il faut essayer de voilà de développer un projet qui fait sens et qui va essayer d'éveiller des consciences, qui va parler aux consommateurs et qui va justement essayer aussi de faire bouger les choses et oui, d'éveiller le consommateur vers un achat plus responsable, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'alimentation. que ce soit dans la tech. Y a plein de choses qui sont possibles et je suis super. Je suis assez positive quant à l'avenir quand je vois toutes les initiatives qui émergent chaque jour. C'est très, très chouette.
On va pouvoir passer à la partie rencontre mindset entrepreneuriat. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans cette aventure?
Forcément, je pense que la rencontre qui m'a le plus marqué, et j'en parle toujours avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour, je pense, c'est la rencontre avec Thierry, qui était la première personne qui m'a accueillie à l'atelier de fabrication au Portugal et qui m'a fait confiance puisqu'il reçoit des tonnes de demandes tous les jours de la part de marques qui veulent faire fabriquer ses chaussures au Portugal, leurs chaussures au Portugal. Et en fait, c'est lui qui m'a fait confiance et qui a dit « Ok, on y va et on co-crée tout ensemble. » Et donc Thierry, c'est le fils du fondateur de l'atelier qui s'appelle Manuel. Et Manuel, il a fondé cet atelier il y a 33 ans maintenant. Il a dû travailler dans le monde de la chaussure par obligation parce qu'il fallait aider ses parents à ramener de l'argent à la maison. Donc il a appris à partir de 11 ans à découper, puis à coller, puis à assembler les chaussures. Et vers 30 ans, il a monté son propre atelier, l'atelier avec lequel je travaille, dans lequel il a employé son frère, sa nièce, son cousin. Et finalement, c'est une équipe de 20 personnes aujourd'hui. Et Thierry, il a fait ses études aux Pays-Bas et son père avait besoin d'un coup de main au niveau de la partie commerciale parce qu'il ne parle pas anglais. Il a besoin d'un commercial qui fasse le lien entre l'atelier et les marques. Et donc, il lui a dit « Bon, mais viens travailler avec moi. » Et donc, voilà, ça fait 4 ans qu'il a rejoint l'usine. Et aujourd'hui, on entretient une relation très forte. Alors, c'est un peu plus compliqué de communiquer avec le papa puisque moi, je ne parle pas portugais. Alors, j'essaye, j'envoie des SMS qui sont traduits sur Google et puis je fais comme je peux. Mais on a une relation très forte et notamment avec Thierry, on parle absolument tous les jours c'est plus qu'une relation commerciale, c'est vraiment de l'amitié et j'ai plaisir à aller les revoir tous les 3 mois à peu près. On s'envoie régulièrement des cadeaux. Il y a une relation vraiment très affectueuse qui s'est créée tous les mois et à chaque fois quand on pose la question combien de personnes il y a derrière Zeta, il y a 3 personnes au bureau et puis il y a 20 personnes derrière au Portugal qui fabriquent les chaussures.
Ok. Et puis, c'était la première fois que tu allais au Portugal au moment de la visite ou tu y étais déjà allée?
J'y étais allée il y a 4 ans, 3 jours, je crois, sur un week-end. Mais c'est vrai que vraiment, c'est l'une de mes destinations préférées, je crois.
Ouais. Étant d'origine portugaise, je ne peux que...
C'est vrai.
Ouais, c'est clair. Et puis même sur la bienveillance et puis le côté chaleureux aussi des Portugais.
Très accueillant et très humble. Il y a une vraie
exactement.
Humilité.
Il suffit d'aller une fois là-bas pour tomber amoureux et c'est un feedback qui revient très souvent des gens qui vont là-bas et d'ailleurs j'ai fait un épisode dans les derniers qui sont sortis avec une entrepreneur qui a entrepris à Lisbonne et qui était française et qui n'avait pas du tout d'origine qui était juste partie là-bas et qui était tombée amoureuse aussi du pays et de la ville et c'est vrai que ça arrive très fréquemment donc
c'est magnifique, les paysages sont incroyables et en fait les gens sont très très accueillants et on y mange très bien.
En effet, ça c'est
il faut le dire.
Sûr. C'est sûr. Ma deuxième question, c'est peux-tu me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui? Alors ça peut être dans l'entrepreneuriat, mais ça peut aussi rien avoir potentiellement des artistes ou des gens que tu connais, que tu fréquentes, qui t'inspirent.
Il y a une personne qui m'inspire que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer, mais avec qui j'ai pu échanger via les réseaux sociaux. C'est Camille Etienne de Graines de Possible qui tient un compte Instagram qui est étudiante à Sciences Po et en fait qui milite en faveur de l'environnement et qui essaie de faire bouger les choses un peu au niveau politique, qui essaie de se faire entendre et qui fait régulièrement des marches et des sit-ins et que je trouve très inspirante, elle parle très bien, s'exprime très bien et elle a fait plusieurs plateaux télé où elle était en face de politique et en fait où elle leur tenait tête et j'ai trouvé ça... très inspirant. Et la deuxième personne que je trouve très inspirante que j'ai pu rencontrer récemment, c'est Joël Dupuis. En fait, c'est l'acteur dans Les Petits Mouchoirs, qui est l'ostréiculteur. Et j'ai été invitée pour une nouvelle émission qui tournait en Nouvelle-Aquitaine chez lui, sur le bassin d'Arcachon. Et en fait, on a eu des conversations. Le principe de l'émission, c'était d'échanger ensemble autour d'un déjeuner et voilà, d'échanger sur plein de sujets divers et variés. Et on a eu des échanges qui étaient passionnants. Il a, je pense qu'il y a une 60aine d'années ou un petit peu plus, il a eu 1000 vies et il te parle de sa région dont il est amoureux avec passion et c'était, je sais pas, je suis ressortie de ces échanges hyper bien, hyper positive, et je trouvais que c'était quelqu'un de formidable. Et voilà, ce sont deux personnes qui ont des parcours très différents, des âges très différents, mais qui m'inspirent beaucoup.
Super. Et ça me donne envie de rajouter une petite question, c'est est-ce que potentiellement dans les prochains objectifs d'ici quelques années, c'est pas aussi d'avoir du cuir de raisin français, et notamment autour de Bordeaux potentiellement, hein, parce que c'est quand même une région qui apprécie le vin.
C'est une région du
type pratique.
Exactement, qui pratique. On aurait bien voulu utiliser du raisin bordelais. Le problème, c'est que cette entreprise italienne qui s'appelle VGA, qui est basée à Milan, elle a déjà tout un système d'approvisionnement qui est bien rodé, et ils travaillent en circuit court. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément fait sens de transporter du raisin qui vient de la région bordelaise jusqu'à eux. Et en fait, ils ne sont pas d'accord, tout simplement. Ils ont déjà tout leur système de fabrication bien rodé. Mais du coup, pour remédier à ça, puisqu'on a eu plusieurs remarques de néo-aquitains et de bordelais qui nous ont dit « Mais attendez, vous êtes une marque bordelaise et vous faites fabriquer votre cuir en Italie. » On a récupéré du marc de raisin qui vient de la région de Bergerac, dans le château Le Peyral avec lequel on collabore. Et on l'a déshydraté et on l'a intégré dans les deux semelles des chaussures. Alors, c'est une quantité qui n'est pas énorme, mais ça permet, on a quand même vendu pas mal de ce modèle-là. Donc, ça permet de donner une seconde vie à ce marc de raisin qui, généralement, est jeté ou envoyé à destination des distilleries pour en faire de l'alcool ou du gel hydroalcoolique. Donc, on a réussi à le valoriser.
Oui, et puis il faut rappeler aussi que le projet n'a qu'un an, donc potentiellement il pourra évoluer dans les prochaines années sans trop de problèmes.
Exactement, mais oui, pour répondre à ta question, ce serait un objectif bien sûr, mais ça implique beaucoup de R&D, avoir une équipe qui travaille, beaucoup de tests, et simplement pour donner une idée, ce cœur de raisin, il a pris 8 ans avant d'être mis au point et breveté.
Donc, ouais, ça c'est des choses importantes aussi à rappeler pour justement contextualiser aussi que voilà, le cuir de raisin il ne se produit pas comme ça en 24 heures.
C'est, absolument.
C'est beaucoup de travail et beaucoup d'expertise pour faire ça, quoi.
Exactement.
Et ma dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer, mais potentiellement plus des jeunes justement qui sont en études et qui aimeraient lancer leur projet et qui hésitent, qui n'arrivent pas à se lancer, qu'est-ce que tu leur conseillerais?
L'important, je pense, c'est de bien structurer son idée. C'est la première étape, de savoir quelle idée j'ai envie de porter et pourquoi surtout elle fait sens pour moi. Est-ce qu'il y a un impact derrière? Est-ce que ça c'est relié à une de mes passions? Est-ce que ça va me motiver chaque matin à me lever? S'il y a un vrai intérêt, s'il y a un impact, si c'est, je sais pas, si c'est votre passion, c'est l'alimentation, si c'est l'équitation, peu importe, ça va beaucoup plus vous motiver à développer ce projet. Ça, c'est, pour moi, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est, ou le deuxième conseil plutôt, c'est de laisser toutes les peurs de côté et de se dire, en fait, il n'y a rien à perdre. Et surtout, il y a tout à apprendre, en fait. J'ai jamais autant appris en un an de façon autodidacte que tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes 5 ans d'études, que ce soit en stage ou pendant les cours. C'est impressionnant parce qu'en fait, quand on est confronté à un problème et qu'on n'a que soi pour le résoudre, on est obligé de le faire. Et je n'avais pas de connaissances en finance, pas plus que ça. Je n'avais pas de connaissances en logistique. Et en fait, on est obligé de passer par là, par les problèmes administratifs, par tous ces problèmes de compta, par exemple. Et en fait, on grandit plus vite aussi. On acquiert une certaine maturité parce que forcément, on a toutes ces responsabilités sur ses épaules et on est obligé de faire face à tous ces problèmes. Donc, essayez de laisser toutes les peurs de côté et voyez le positif surtout de ce beau projet et lancez-vous. Lancez-vous et s'il vous plaît, ayez un impact positif.
C'est clair. Et est-ce que tu conseilles aussi d'entreprendre pendant ses études? Parce que c'est un sujet aussi important.
Honnêtement, oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'aides qui sont proposées aux étudiants, que ce soit des concours entrepreneuriaux, que ce soit des incubateurs qui sont gratuits. Parce que la majorité des incubateurs, quand même, en France sont payants ou ils prennent une part au capital ou plusieurs alternatives. Mais les incubateurs gratuits, il y a des aides, et il y a surtout beaucoup de visibilité quand vous êtes étudiant, chose que vous n'avez pas forcément lorsque vous avez 30 ans, que vous avez déjà un bon background de l'expérience. On vous regardera peut-être un peu moins si vous avez déjà de la maturité. Donc, j'ai envie de vous dire, lancez-vous pendant que vous êtes étudiant.
Très clair. Parfait pour finir cette partie. Et du coup, on passe à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. Quand je dis rapide, c'est pas forcément rapide, hein, t'as le temps de répondre, mais c'est des questions courtes.
Ok.
La première, c'est est-ce que t'as un livre à me conseiller ?
C'est celui que je lis actuellement. En fait, j'en ai deux. Je lis un roman qui s'appelle Shantaram. Ça se passe en Inde et c'est un Australien qui s'est évadé de prison et qui part parcourir l'Inde. Et en fait, c'est incroyable au niveau des scènes descriptives et c'est magnifique. J'ai l'impression d'être en Inde à chaque fois et c'est le pays que je rêve de visiter depuis que je suis toute petite. Donc ça me fait un peu voyager à chaque fois que je lis. Et l'autre, ça n'a rien à voir, c'est Confession d'un entrepreneur pas comme les autres, je crois que c'est ça, de Yvon Chouinard, le patron de Patagonia, qui explique comment il a fondé Patagonia et pourquoi
une belle
marque. Une belle marque. Et pourquoi il est important d'avoir un impact positif. Donc c'est deux bouquins totalement différents, mais qui sont sur ma table de chevet.
Ok, merci pour les recos. est-ce que tu as un film à me conseiller ?
Mon film préféré, j'en ai deux. J'ai Gran Torino de Clint Eastwood, classique, mais que je pourrais voir des centaines de fois.
Chef-d'œuvre.
Un chef-d'œuvre, comme tous les films de Clint Eastwood.
Exactement. Hein, dire.
Et le deuxième, il est peu connu, ça s'appelle Incendie. C'est un film qui est québéco-libanais et en fait qui retrace les massacres de Sabra et Shatila dans les années 70 au Liban, je crois. Les guerres de religion entre le peuple catholique et musulman. Et en fait, il y a un dénouement incroyable à la fin. C'est un film qui te tient en suspens du début jusqu'à la fin. Ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais ça permet d'y voir aussi beaucoup plus clair sur cette période, moi, que j'avais à peine vu dans les livres d'histoire. Et franchement, il faut le voir. C'est incroyable. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre.
C'est noté. ta musique du moment ?
J'ai envie de dire toutes les chansons de Marvin Gaye.
Ok.
Qui me mettent de bonne humeur, j'adore.
Je valide. si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière.
J'adore ces questions. Je ne me les suis jamais posées. Parce qu'en fait, je vais partager entre te dire une boîte que j'aime pas du tout pour tout reconstruire.
Ouais.
Et une boîte que j'adore mais qui fait déjà les choses bien. C'est un peu compliqué.
Il y a deux challenges différents du coup.
C'est ça. Bon, après, je peux te dire un secret, et du coup, ce sera plus un secret pour personne, mais bon, j'adorerais racheter Ricard parce que je suis une passionnée de Ricard. Autant de. Bon, je vais pas dire de la boisson parce que je vais un peu me. mais de la marque et j'adore cette marque en fait. Donc, voilà, bon, pour le fun, je veux dire Ricard.
Ok, c'est validé aussi. y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée pendant cet échange ?
Ah, mais ça, c'est une question d'entretien d'embauche, ça. Peut-être la signification du nom Zeta.
Ouais, c'est vrai que j'ai oublié cette question en plus dans l'intro, mais qu'est-ce que ça veut dire Zeta, justement ?
C'était hyper compliqué à trouver un nom de marque, puisqu'il faut savoir que dans le textile, tout est déjà pris, tout est déjà déposé au niveau de l'INPI. Et en fait, en étudiant le champ sémantique autour du zéro déchet, puisque le cœur du projet, c'est zéro déchet. Et je me suis rendu compte que Zeta, c'était un dérivé de la fonction zéro en maths. Et je me suis dit, bon, ça fait sens. Et surtout, ça se retient vite et c'est joli. Et on m'a appris par la suite, j'ai une cliente qui m'a appris que c'était aussi le nom d'un cépage hongrois. Donc, ça tombe plutôt bien.
Waouh. C'est beau.
Bonne pioche.
Okay. Super. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, dernière question. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
J'en ai deux à te conseiller. Il y a Thomas de la marque Oe, Oe for Good, qui fait du vin biologique et engagé. Et ils sont top, c'est une super. Ils sont une vingtaine, je crois, à Lyon. Et j'ai pu échanger avec lui pendant un Z-apéro que j'avais fait sur Instagram. Et il est génial, il a plein de projets, il est hyper positif, hyper enthousiaste. Et je pense que il y aurait pas mal de choses à dire avec Thomas. Et l'autre personne, c'est Lisa de Lao, qui fait des shampoings naturels en Alsace, à base de chanvre français. Et en fait, on a le même parcours quasiment. On s'est lancé en même temps pendant la dernière année de master. J'ai beaucoup échangé avec elle. Elle a vécu des moments pas faciles cette année parce qu'elle s'est lancée seule aussi. Elle a eu pas mal de problèmes avec la fabrication. Et en fait, elle a un super parcours et elle a su rebondir à chaque fois. Donc honnêtement, Lisa, certain.
Super. Deux recos que je ferai partir quelques mails après notre échange, je pense.
Génial.
Donc, trop cool. J'ai beaucoup apprécié notre échange, surtout
moi aussi,
dans cette journée d'anniversaire. Franchement, je suis honoré.
Un peu spécial.
Ouais, c'est ça. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire dans 2 ans, par exemple, refaire un épisode.
Avec plaisir, j'espère.
Je propose ça à certains invités.
J'adorerais faire un petit compte rendu.
Exactement. Et ça permettra de faire un autre bilan. Donc merci à toi. Celles et ceux qui veulent acheter une chaussure Zeta, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils peuvent aller sur le site et du coup, des boutiques qui vont ouvrir soon, c'est ça?
Exactement. Alors, sur le site internet, zeta-shoes.com.
Ouais.
Et donc, au niveau des boutiques, on va toutes les remettre sur le site internet, mais Paris, Bordeaux, Genève, Lille et Toulouse.
Super, parfait. Une bonne façon de finir ce podcast.
Merci
Salut,
à
Laure.
Toi
merci
pour l'invitation. À bientôt, ciao.
À bientôt, ciao.